Chapitre 6 Aux écoutes. À l'heure où Jean-Baptiste Schwartz et M. Lecoq se séparaient dans le chemin creux, Caen s'éveillait. Le jour se lève matin, au mois de juin. Les environs s'animaient, dans ces admirables et plantureuses prairies, où l'Odon, tributaire, apporte son filet d'eau à l'Orne, les troupeaux arrivaient. Le quai reprenait ses affaires. Les cabarets, toujours pressés, s'ouvraient dans les rues de la basse ville, et l'armée des campagnards envahissait le marché. Campagnards et citadins, du reste, bateliers, ouvriers, fermiers, ceux qui achetaient et ceux qui vendaient semblaient parfaitement tranquilles. Aucune émotion extraordinaire n'agitait la halle. Caen avait dormi, rien ne semblait avoir troublé la monotone quiétude de sa nuit. D'habitude, la devanture d'André Ménotte s'ouvrait bien avant les volets du commissaire de police. André n'avait peut-être pas reçu de la nature cette âpre activité du commerçant, par vocation qui fait argent de toutes les minutes, mais un autre sentiment, plus fort que la cupidité même, le jetait chaque matin hors de son lit. Il était fourmi par amour. Il s'était donné cette tâche d'élever Julie au-dessus de l'humble niveau qui pesait sur son front si jeune, si beau, si fier. La destinée de Julie était de briller. Il avait promis des rayons à son astre et il travaillait sans relâche car il était fort et patient. Les gens comme lui parviennent à coup sûr. Il avait la volonté indomptable, le talent qui la féconde et ce droit honneur qui reste, quoi qu'on dise, la meilleure des habiletés. Pour arrêter cela, il faut la foudre qui frappe çà et là dans le tas humain touchant un homme sur 100 000, et qui donc compte avec ses hasards de la foudre. Ce matin, pourtant, les volets du commissaire s'ouvrirent avant la devanture d'André Ménotte. Il y avait, je ne sais quoi, d'anormal au premier étage. Madame Schwartz, en peignoir d'indienne, allait et venait dans la maison, écoutant à la serrure de son mari et en proie à une véritable fièvre de curiosité. Hyacinthe était entré au bureau et n'en ressortait point. Il y avait quelque chose de grave. André avait passé une nuit sans repos. Il s'étonnait lui-même du trouble qui le prenait au moment d'entrer dans sa voie nouvelle. C'était une nature résolue. Il avait pesé mûrement ses chances de succès. Pourquoi donc cette agitation inquiète? Julie dormait près de lui et semblait sourire à un rêve. Bien des fois, depuis que la lueur du crépuscule s'était glissée dans la chambrette, André, soulevé sur le coude, avait promené son regard de la beauté sereine de sa jeune femme à l'angélique gentillesse de l'enfant, cachant à demi sa tête blonde derrière les rideaux du berceau. Il se sentait pleinement, trop heureux, pourrait-on dire, cela l'effrayait. Au moment d'entamer la grande partie, il avait souhaité un nuage à son ciel. Le sommeil le prit enfin, tandis qu'il cherchait à l'horizon quelque chose qui ressemblât à une peine. Il ne savait pas qu'il dormait. Il fut éveillé en sursaut par un gémissement. C'était Julie qui se plaignait, étouffée sous un cauchemar. Un baiser l'éveilla. Elle sourit. Il voulait nous séparer, et ses beaux yeux se refermèrent. 5 heures du matin sonnaient. Un bruit de marteau retentissait à l'étage supérieur. La première idée d'André fut de se lever, mais il ressentait une fatigue extrême et un affaissement qu'il ne se souvenait point d'avoir éprouvé jamais. En même temps, une tristesse inconnue brisait sa pensée. « Il voulait nous séparer, » répéta-t-il sans savoir qu'il parlait. Il y avait une petite pièce servant de resserre à ses outils et aux objets non encore restaurés. Elle donnait sur la cour et attenait à la chambre à coucher. Au milieu de cette somnolence que produisait chez lui la lassitude, André Ménotte crut entendre des voix dans la resserre. Il sauta hors de son lit, car cela faisait illusion. On eût dit que plusieurs personnes causaient là, derrière la porte, et le bruit du marteau continuait. La porte ouverte, André vit qu'il n'y avait personne. Les voix venaient maintenant de la cour, et son nom, prononcé plusieurs fois, frappa ses oreilles. La fenêtre était grande ouverte à cause de la chaleur. Il s'en approcha, marchant pieds nus. La cour était déserte comme la chambre, mais les voix s'entendaient encore plus distinctement. Elles semblaient s'être si rapprochées qu'André mit sa tête hors de la fenêtre pour voir si les causeurs n'étaient point collés contre le mur. Il leva les yeux. Son nom venait d'être prononcé pour la seconde fois. En l'air, on l'eût juré. Voici ce qu'il aperçut. Immédiatement au-dessus de sa tête, un ouvrier, terminant sa besogne, enfonçait le dernier clou d'une sorte d'auvent destiné à protéger la fenêtre de l'étage supérieur qui n'avait point de persienne. Cette fenêtre éclairait le cabinet particulier du commissaire de police. Elle était située au midi. L'été s'annonçait brûlant. Le commissaire établissait tout bonnement des barricades contre l'invasion du soleil. Il était arrivé quelquefois à André Ménotte de saisir quelques paroles tombant de cette fenêtre, surtout quand Madame Schwartz élevait la voix dans ses querelles de ménage. Ce n'était pas ses affaires, et la curiosité provinciale n'était point son péché. Il n'avait prêté aucune attention à la comédie matrimoniale qui, chez ses voisins, atteignait un nombre fabuleux de représentations, et s'était promis seulement de parler bas quand il causerait dans sa resserre. Mais l'auvent qu'on venait de poser, et qui pour le moment formait un angle de 45 degrés par rapport au plan de la fenêtre du premier étage, exagérant tout à coup les conditions particulières où se trouvait la petite pièce du rez-de-chaussée, renvoyait le son avec une telle netteté qu'un appareil acoustique n'eût pas fait mieux. Ce n'était pas l'ouvrier qui avait parlé, les voix venaient de l'intérieur. Elles étaient émues et contenues. Ceux qui s'entretenaient là-haut paraissaient en garde contre ce fait que la fenêtre ouverte pouvait avoir des oreilles. André Ménotte resta immobile et déjà frappé. Pourquoi frappé? Il n'aurait su le dire, car étant donné son caractère ferme et absolu, peu lui importaient les commérages des voisins. Et en dehors des commérages qui vont et viennent, il n'y avait rien, sa conscience lui affirmait, qui put être dit contre lui. Pourquoi frapper alors lui qui était tout jeune, lui qui dédaignait trop peut-être les petits hommes et les petites choses, lui qui était étranger dans la ville de Caen, lui qui se préparait à la quitter bientôt pour toujours? Il écouta, son nom prononcé l'y autorisait, il écouta, guettant le retour de son nom. L'ouvrier venait de rentrer après avoir achevé sa besogne. On se taisait maintenant à l'étage supérieur. Quand on se reprit à parler, la conversation avait tourné, sans doute, car les mots prononcés ne pouvaient plus s'appliquer à André. L'air était frais, sa fantaisie d'écouter ne le tenait guère. Il allait regagner son lit lorsque cette phrase tomba, prononcée d'une voix basse. « Je vous dis qu'il est ruiné, mais ruiné roide, il parle de se brûler la cervelle. » André hésita. Ce n'était pas la voix du commissaire, non plus celle d'Éliassin, l'Alsacien blond. L'hésitation d'André devait durer juste le temps de faire cette réflexion qu'il n'avait pas le droit de surprendre certains secrets. Il n'en eut pas le loisir. Le commissaire reprit avec une sorte de colère. « Vous répandez de mauvais bruits. Tout cela retombe sur nous. Un homme pareil n'a jamais en caisse que l'argent de ses échéances. » Une voix inconnue répliqua distinctement « Il y avait en caisse plus de 400 000 francs en billets de banque. » André tressaillit de la tête aux pieds. Ce chiffre tout seul lui contait une histoire entière. Monsieur Bancel lui avait dit justement la veille que sa caisse contenait plus de 400 000 francs. Il eut froid dans les veines. Était-ce pitié pour le malheur d'un homme? André Ménotte était un brave et généreux cœur, mais ce ne fut point de la pitié. On ne sait comment exprimer ces choses, ce fut de la peur. Pourquoi? Encore une fois, pourquoi ce jeune homme qui était l'honneur même eut-il peur en devinant que la caisse du riche banquier Bancel venait d'être forcée et vidée? Les faits de pressentiment ne sont pas rares. Les grands chocs ont de mystérieux avant-coureurs, comme les grandes maladies sont annoncées par leur prodrome. André Ménotte avait un poids sur le cœur. Dans la chambre à coucher, il crut entendre encore ces gémissements qui naguère l'avaient éveillé. Il se traîna, défaillant, jusqu'à la porte. L'enfant reposait paisiblement. La jeune mère, appuyant sur son bras nu les boucles éparses de ses magnifiques cheveux, dormait aussi, tranquille et belle comme une sainte. André tendit ses mains vers ces deux êtres si chers. Il était pâle et il tremblait. Nous parlions de pressentiment. Ce qui va suivre n'est pas une explication, mais un renseignement. La ville de Caen, qui devait avoir quelques années plus tard cette tragédie bizarre et terrible, le meurtre de l'horloger Péchard, vivait en 1825 sur les récents débats de l'affaire Orange. Les époux Orange, fermiers au pays d'Argence, avaient été condamnés en août 1825 par la cour royale de Caen à la peine de mort, comme coupables de meurtre commis, de complicité avec préméditation sur la personne de Denis Orange, leur oncle paternel. C'était une de ces lugubres causes où l'avidité villageoise joue le rôle principal. Chaque année, l'avarice des campagnes tire quelques nouvelles éditions de cette hideuse bucolique. Un vieux paysan a l'imprudence de céder son bien à ses neveux, sous condition d'être nourri, logé, soigné jusqu'à sa mort. Un tel contrat renferme naturellement, du côté des neveux, cette stipulation implicite que l'oncle ne mettra pas trop de temps à mourir. Si l'oncle abuse et s'attarde, on lui coupe la gorge avec une serpe, à moins qu'on ne le jette dans un puits. Chacun sait cela. Néanmoins, il y a toujours de vieux oncles pour accepter ainsi la dangereuse hospitalité de leurs héritiers. Il s'était présenté ici des détails assez repoussants pour donner un brillant succès à la cause. Le public avait gardé quelques doutes sur la culpabilité des époux Orange qui étaient tout jeunes. Pierre, un mâle gaillard qui aurait pu gagner sa vie autrement, Madeleine, une belle et naïve créature qui ne savait que pleurer quand on parlait de son oncle. La peine capitale avait été commuée, et dans le pays d'Argence, on connaissait un valet de charrue qui buvait quatre fois ses gages depuis le temps et qui était bien capable d'avoir fait le coup. André Ménotte était un homme de vaillance, d'intelligence et d'honneur, mais il n'était pas un lettré. Il avait assisté au débat de l'affaire des époux Orange. Il en gardait une impression profonde, d'autant plus qu'il les jugeait innocents. Mais de là à s'effrayer pour son propre compte, il y a loin. Qui l'accusait? Sous quel prétexte pourrait-on l'accuser? Nous rentrons dans l'inexplicable. Ceci est le fait même du pressentiment qui ne répond jamais à toutes les questions qu'on lui pose. André tremblait. Il était très pâle. On avait prononcé son nom par deux fois là-haut chez le commissaire de police. Cependant, sa raison se révoltait et un sourire lui vint aux lèvres, tandis qu'il se disait « c'est de l'extravagance ». En effet, c'était folie, car il faut à tout le moins un motif, un prétexte. « J'ai toujours dit, s'écria impérieusement une voix nouvelle dans la chambre du haut, qu'il fallait se méfier de ces gens-là. » C'était Madame Schwartz qui venait de faire irruption dans le bureau. Cette fois, on ne prononçait aucun nom, et pourtant, André Ménotte était sûr, absolument sûr, qu'on parlait de lui, ces gens-là, lui et sa femme. On tenta évidemment de faire sortir Madame Schwartz, mais elle déclara qu'elle avait le droit de rester. L'affaire la regardait personnellement, puisque, avec de pareils voisins, désormais, on ne pouvait pas dormir tranquille. L'incertitude d'André prenait des raisons d'être, si elle ne pouvait pas augmenter. Le commissaire dut céder, car la discussion s'éteignait. La voix inconnue poursuivit cependant. Cette pensée-là a sauté aux yeux de M. Beausel. Quand sa femme et ses enfants sont venus, il s'est écrié « J'ai tout dit à cet homme-là, il savait que j'avais en caisse le prêt de ma terre, outre mon échéance, il a vu le secret, le brassard lui appartient. » André ne comprit pas cette dernière phrase, dont le sens précis eût été pour lui un coup de massue. Il n'avait pas besoin de cela. Tout son sang lui rougissait le visage et la sueur coulait à grosses gouttes de son front. « Ils étaient deux ?» demanda le commissaire. « Oui, lui fut-il répondu. Il a fallu quatre mains occupées à la fois pour le travail de forçage. » « Quatre mains d'hommes vigoureux ?» « Non, la moitié de la besogne pouvait être faite par un enfant. » « Ou par une femme, » prononça tout bas le commissaire. « Ne m'as-tu pas dit, » s'écria Madame Schwartz, « que tu les avais rencontrés tous deux hier soir, sortant à des 11 heures ?» André mit ses deux mains sur sa poitrine qui haletait. Mais l'idée de son innocence jaillit du sein même de cette détresse, et il se releva d'un coup. Le désir lui vint de monter et de confondre en trois paroles cette absurde accusation. Il fit un pas, tout nu qu'il était, pour mettre ce dessin à exécution. Ce mouvement le porta en face de l'entrée, et son regard tomba pour la seconde fois sur la belle dormeuse qui toujours souriait. Il s'arrêta, une angoisse nouvelle l'étreignit. Elle aussi était accusée. Elle, c'était son cœur. Il n'avait jamais senti comme à cette heure à quel point il l'adorait. Ses épouvantes revinrent et le terrassèrent. Un éblouissement lui montra la prison, l'audience, que sais-je. Il vit la foule autour du banc des accusés. Il entendit cette voix dure, orgueilleuse, implacable. Il se trompait, mais il tremblait, lui qui était, nous le verrons bien, ferme et fort. « Il est comme fou, ce pauvre Beausel !» reprenait en ce moment la voix étrangère. « Il a sa tête dans ses mains et va répétant « C'est moi, c'est moi, c'est moi qui lui ai donné l'idée du brassard !»« Il faudrait les arrêter tout de suite !» dit Madame Schwartz. « La maison est cernée !» répondit le commissaire. C'est à peine si André fit attention à ces deux dernières répliques, si menaçantes pourtant, et qui exprimaient si violemment le péril de la situation. Il n'avait entendu qu'une chose, M. Bancel allant répétant « C'est moi qui lui ai donné l'idée du brassard !» À lui, André. Nous savons qu'il avait été question du brassard la veille entre le banquier et le jeune ciseleur. Mais que faisait là le brassard? C'était la seconde fois qu'on parlait du brassard, là-haut, chez le commissaire de police. Quel brassard? Il y avait silence à l'étage, au-dessus. La fièvre d'André creusait son cerveau. Quel brassard? On s'était donc servi d'un brassard? Le sien était là, dans son magasin, en montre, comme toujours. Machinalement, il se dirigea de ce côté. En passant auprès du lit de sa femme, il joignit les mains et sa prière monta vers Dieu. Il entra dans le magasin et poussa un gémissement étouffé. L'instant après, il revint, appuyant son pas chancelant au meuble et à la muraille. Sa joue était livide, ses yeux s'éteignaient, des convulsions faibles contractaient sa bouche. « On l'a volé, » murmura-t-il, comme s'il eût confié ce fatal secret à quelque être invisible. « On m'a volé le brassard. » En ce moment, le commissaire disait « C'est Bertrand, l'allumeur de réverbère. »« As-tu vu quelque chose ?» demanda la femme avidement. « Il les a vus, » répliqua le commissaire, dont la voix dénotait une véritable émotion. « À minuit, sur le banc, qui est là-bas, à l'autre bout de la place, il parlait de la caisse de M. Bancel, où il y avait, disait-il, plus de 400 000 francs, et il comptait des billets de banque. » André se laissa tomber sur ses deux genoux en rendant un râle sourd. Le choc de sa tête éveilla Julie, qui, souriante et les yeux fermés à demi, lui jeta ses bras autour du